quelqu'un qui allait au-devant des gens. Je me suis adressée à lui personnellement il y a 2 semaines. Il est venu nous dire bonjour, il m'a serré la main, il a caressé mon petit chien.
Ils en parlent déjà au passé, mais avec une certaine affection. Patrick Balkany est en prison, ses administrés à Levallois-Perret ne s'en remettent pas.
Une charge de police avait fait tomber dans la Loire des dizaines de jeunes à Nantes le soir de la fête de la musique le 21 juin. Il y a eu, je cite, « un manque de discernement ». C'est ce que reconnaît le ministère de l'Intérieur.
L'intervention, à ce moment-là, elle est légitime. Ce sont simplement ces modalités d'application qui posent problème.
Et puis décidément, la sécheresse gâche la vie de tout le monde, même celle des cueilleurs de champignons.
Pour le moment, on ne trouve rien. Il y a un manque d'eau, on le voit, c'est sec. Il faut qu'on descende vraiment dans les contrebas pour pouvoir trouver quelque chose.
Après les champignons, nous irons sur le gazon pour le journal des sports et peut-être ou peut-être pas, Neymar face à Strasbourg ce samedi.
Bonne journée à toutes et à tous.
Europe 1.
À 71 ans, il a passé pour la première fois de sa vie une nuit en prison. Patrick Balkany, toujours maire de Levallois-Perret, mais incarcéré à la Santé à Paris. 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale et 10 ans d'inéligibilité.
Ses avocats ont annoncé qu'ils vont faire appel et demander sa remise en liberté, mais ces deux procédures prendront mécaniquement du temps.
En tout cas, dans les rues de Levallois-Perret, où s'est rendue notre reporter Hélène Terzian, certains habitants n'osent pas croire à cette condamnation.
Voilà, Levallois en deuil, c'est ça. Levallois sans Balkany. C'est plus Levallois. On a perdu notre mère.
Imaginez Patrick Balkany en prison plutôt qu'à la mairie. L'image est tellement inconcevable pour Michel, levalloisienne depuis 37 ans, qu'elle parle de lui au passé.
C'est quelqu'un qui allait au-devant des gens, qui était à l'écoute de tous les levalloisiens. Je me suis adressée à lui personnellement il y a 2 semaines. Il est venu nous dire bonjour, il m'a serré la main, il a caressé mon petit chien. Donc, prendre autant d'années de prison et du ferme tout de suite, c'est quand même énorme.
Une condamnation qu'il ne mérite pas, confie Léopoldine, écœurée de voir derrière les barreaux le maire qui a transformé sa ville.
Il a hyper investi dans cette ville, les écoles, tout ce qui est centre aéré. Et il y a du boulot, toutes ces grandes enseignes, et c'est Balkany qui les a fait venir. Donc non, un délinquant n'a pas construit cette ville.
C'est incontestable, il a façonné la ville, approuve Philippe, mais cela n'excuse pas ses erreurs.
En tant que maire, c'est parfait. Mais en tant qu'homme, c'est un voleur. Ça fait 30 ans que ça dure. Il a fauté, il doit payer. Donc il est en prison, il faut qu'il y reste. Et sa femme aussi aurait dû aller en prison.
Isabelle Balkany qui sera présente dès ce matin, comme d'habitude, au marché de Levallois, où de nombreux habitants ont déjà prévu de venir la soutenir.
Hélène Terzian pour Europe 1.
Contrairement à son épouse Isabelle, condamnée hier à 3 ans ferme mais sans mandat de dépôt, Patrick Balkany donc a lui été immédiatement incarcéré.
Il est à l'intérieur de la seule prison dans Paris, la maison d'arrêt de la Santé, dans une zone spécifique. C'est ce que va nous expliquer Alain Lacour.
Depuis qu'elle a été entièrement rénovée, il n'y a plus de quartier VIP à la prison de la Santé. Patrick Balkany a passé la nuit dans une cellule individuelle, 9 mètres carrés, avec coin douche et toilette, petit frigo et plaque de gaz, télévision et téléphone fixe. Toutes ces conversations peuvent être écoutées, sauf celle avec son avocat. Sa cellule est située au 2e étage, dans le quartier des personnes vulnérables, quartier réservé aux détenus médiatiques ou à ceux qui pourraient être agressés à cause de leur profil ou des infractions commises. Alexandre Benalla y a passé 1 semaine en début d'année. Actuellement, on y trouve les 2 policiers de la brigade anti-gang condamnés pour le viol d'une touriste canadienne. Patrick Balkany pourra les croiser en promenade 2 fois par jour. Dès hier, ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté qui sera examinée au plus tard dans les 2 mois. Mais l'espoir de ressortir paraît limité, car un nouveau jugement attend Patrick Balkany le 18 octobre. Le procureur avait requis 7 ans de prison pour corruption.
Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1.
Un manque de discernement. Voilà exactement ce qui est reproché à un commissaire de police dans l'affaire Steve.
Il y a donc eu des dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre le soir de la fête de la musique à Nantes, quand le jeune homme a disparu. On avait retrouvé son corps dans la Loire 1 mois plus tard. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, invité d'Europe 1, donne son interprétation du rapport de l'inspection générale de l'administration.
La cause première, principale des violences, et c'est dit dans le rapport, elle vient de ces personnes qui gèrent ce dispositif de musique amplifiée, ce sound system, et qui refusent de l'éteindre à 4h du matin, alors même que les forces de l'ordre les avaient mis en garde et les avaient prévenus qu'à 4h du matin, il fallait interrompre la musique. Et sur celui-ci, ils maintiennent la musique et il y a des jets de projectiles sur les effectifs. Il y a donc une prise à partie de nos effectifs qui sont simplement venus leur demander d'interrompre la musique. Et donc ça, c'est clairement identifié comme étant la cause première des violences à ce moment-là, et donc ce qui a entraîné l'intervention de la police. L'intervention, à ce moment-là, elle est légitime. Ce sont simplement ces modalités d'application qui posent problème. On pointe à un manque de discernement.
Laurent Nunez au micro européen de David Doucan. Après la grève très suivie hier en Ile-de-France, on se dirige peut-être vers un nouveau mouvement dans les transports en décembre. Une grève illimitée à laquelle réfléchissent les syndicats de la RATP. En attendant, ce soir, et ça n'a rien à voir, petite innovation, 6 lignes de métro parisiens restent ouvertes toute la nuit. Les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14, ce sera désormais le cas une fois par mois. Au Venezuela, une enquête ouverte contre l'opposant Juan Guaido, l'homme qui s'était autoproclamé président légitime contre Nicolas Maduro. Cette enquête vise ses liens supposés avec un gang de trafiquants de drogue colombiens, des hommes qui l'auraient aidé à passer illégalement en Colombie. C'était en février dernier.
Restez avec nous dans la suite de ce journal. Le drame, enfin entre guillemets, le drame des cueilleurs de champignons. La sécheresse leur est tout aussi préjudiciable qu'aux agriculteurs. Mais tout de même, les agriculteurs vivent de leur travail, ce qui n'est pas le cas des cueilleurs de champignons.
8h06 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, le 6-9. Europe 1.
Vos informations reprennent avec François Geffrier et Bernard Poirette.
Bon, bah comme promis François, nous partons à la cueillette des champignons.
Mais oui, mais où sont passés les cèpes et les girolles? C'est un drame, vous le
disiez. En Haute-Loire, il y a des auditrices qui me disent qu'il y en a plein.
Formidable, on va aller en Haute-Loire. En attendant, dans les autres sous-bois de France, elles se font rares, la faute à la sécheresse. Et Benjamin Peter s'est rendu en Ariège avec quelques passionnés, un peu déçus par leur récolte.
Pour le moment, on ne trouve rien. Il y a un manque d'eau, on le voit, c'est sec. Il faut qu'on descende vraiment dans les contrebas pour pouvoir trouver quelque chose.
Barbara arpente ce vallon complètement à sec et son panier reste désespérément vide. Elle connaît bien ce talus au cœur de la forêt, d'habitude très généreux. Mais cette année...
Il n'a pas assez plu. Il y a eu une pousse il y a une quinzaine de jours. Il a plu un petit peu, mais pas assez. L'année dernière, à cette époque-ci, oui, les paniers étaient pleins. Juillet, les paniers pleins même de girolles, de cèpes. Cette année, non. Très, très maigre.
Quelques oranges, une poignée de girolles et un seul cep de Bordeaux. Après une journée de cueillette, le bilan de Fabien n'est pas déshonorant, mais loin de ce qu'il ramène généralement à cette époque de l'année.
Il y a quand même beaucoup moins de champignons que l'année dernière en comparaison. Pour nous, dans les Pyrénées, il y a un moment ou un autre où, de toute façon, pour que le catophore pousse, donc le catophore, c'est la partie visible du champignon, puisqu'en dessous, c'est le mycélium, il faut de l'eau. Il y a un moment où il faut de l'eau. Là, on n'a eu que de la chaleur.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se rattraper. Il suffirait de quelques bonnes pluies pour que les cèpes sortent enfin de terre. Et ce qui se dit entre cueilleurs, c'est qu'après une année très sèche, on a généralement une année très abondante. Alors vivement l'été prochain. En Ariège, dans une forêt que j'ai promis de tenir secrète, Benjamin Peter, Europe 1.
Et les champignons, on les garde surtout loin des précieux et fragiles tableaux de maîtres exposés depuis hier à Paris au musée Jacquemart-André.
Absolument. C'est une collection venue des États-Unis, la collection privée Alana, exposée pour la première fois au monde. Les détails tout de suite avec Diane Chenouda.
La collection Alana, Alana comme Alvaro et Anna, du nom de ce couple de collectionneurs new-yorkais d'origine chilienne qui depuis 20 ans accumule les joyaux de la Renaissance italienne. Lui, homme d'affaires fortuné, est mordu de cette peinture. Pierre Curie est le directeur du musée Jacquemart-André.
Il est vraiment passionné par ses tableaux. C'est vraiment, il s'intéresse à l'histoire de l'art. Il est extrêmement, j'allais dire, proche de ses tableaux.
Passionné au point d'avoir chez lui 450 tableaux. On en découvre ici 75. Fra Angelico, Uccello, Lippi, Véronèse, le meilleur de la collection.
Des tableaux pratiquement jamais vus ou très rarement vus, qui sont pour certains des scoops. Ce sont des collectionneurs qui cherchent à avoir un peu de tout, c'est-à-dire vraiment représenter du XIIIe au XVIIe siècle toutes les facettes des différentes écoles italiennes. Ici, on est comme dans un petit musée italien quand même.
De quoi éblouir les amateurs comme les spécialistes de peinture italienne.
Diane Chenouda, donc le petit musée italien, c'est le musée Jacquemart-André qui est à Paris. La collection Alana est à voir jusqu'au 20 janvier 2020.
Et à 8h11, on passe au sport maintenant avec vous, François Geffrier.
On commence par le football, François, puisqu'il y a un point d'interrogation sur la présence d'un homme cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes.
Oui, il a coûté cher, il a failli partir cet été, il a souvent été blessé et il rentre tout juste d'un match aux États-Unis avec le Brésil. Je suis
Neymar.
Gagné, bonne réponse, bon, c'était
même
pas,
moi, je le sais.
Pas très dur. Et le consultant foot d'Europe, Alain Roche, recommande plutôt au PSG de ne pas faire jouer Neymar cet après-midi en Ligue 1 face à Strasbourg, mais plutôt d'attendre un match à l'extérieur.
Moi, je serai l'entraîneur et les dirigeants, je ne le mettrai pas titulaire à domicile au Parc des Princes, sûrement remplaçant. Et j'attendrai le dernier moment pour le faire entrer si vraiment il y a une incertitude sur le résultat du match. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux qu'il s'exprime à l'extérieur, qu'il soit performant pour la confiance, pour faire voir au public qu'il a encore la tête au Paris Saint-Germain.
Alain Roche avec Cyril Delamorinerie pour Europe 1, PSG Strasbourg. jour, c'est à 17h30. On suivra ensuite 4 matchs sur Europe 1 en direct autour de Lionel Rousseau. Dijon, Nîmes, Bordeaux-Metz, Montpellier-Nice et Brest-Rennes. Tous ces matchs sont à 20h.
Parlons basket à présent, un sport où normalement il y a des rebonds. Excellent, excellent. Mais hier, la France malheureusement a fini au panier. Doublement excellent.
Excellent, oui, avec une collection de lancers francs ratés et de tentatives de 3 points qui finissent à côté. Les Bleus battus 80-66 par l'Argentine en demi-finale du Mondial en Chine. Hier, sur M6, Rudy Gobert tentait, tant bien que mal, de se remotiver pour le prochain match, celui pour la 3e place.
Médaille de bronze, c'est quand même quelque chose que, même si on l'a déjà fait une fois, c'est quand même quelque chose qui est plutôt unique. Donc on va essayer de... Voilà, on a une journée pour avaler la pilule et être prêt pour l'Australie.
Rudy Gobert qui joue donc demain France-Australie à 10h, heure française. La finale, ce sera à 14h, l'Argentine contre l'Espagne.
Et puis on parle un petit peu de golf ce week-end, puisque la Française Céline Boutier, absolument, j'y tenais depuis 6h ce matin, qui a 25 ans, Céline Boutier, a été invitée pour la première fois à participer à l'équivalent de la Ryder Cup.
Et ça s'appelle la Solheim Cup, les meilleures américaines face aux meilleures européennes. C'est en Écosse et c'est jusqu'à dimanche. Et pour Europe 1, Corinne Boulou lui a demandé à Céline Boutier si elle n'avait pas d'appréhension avant ce rendez-vous.
Si, bien sûr, toujours un peu d'appréhension. Mais honnêtement, je pense que le fait que ce soit par équipe, ça aide vraiment beaucoup parce qu'on se soutient vraiment chacune les unes les autres, et puis tout le monde se fait tellement confiance, même notre capitaine. Donc ça nous aide vraiment à nous surpasser et à vraiment pas trop penser à l'extérieur et à tout ce qui peut être stressant.
Céline Boutier qui participe donc à la Solheim Cup de golf ce week-end. Elle était avec Corinne Boulou.
Et ceci conclut le journal de 8h présenté par François Geffrier, que je remercie. À tout à l'heure, François, pour le journal de 9h.
8h14, bonne matinée avec Europe 1.
À suivre dans un instant l'invité politique de cette matinale, alors que le Rassemblement National tient son université d'été à Fréjus tout ce week-end, notamment pour préparer les municipales de l'an prochain. Nicolas Bay, eurodéputé Rassemblement National, et l'invité d'Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, Bernard Poirette.